Dans ce nouveau podcast, nous poursuivons l'étude du livre « Le chemin de la grande perfection » de l'auteur Patrul Rinpoché.
Tout à fait.
Et nous abordons ici ce que l'on appelle les quatre pensées qui tournent l'esprit vers le dharma.
C'est-à-dire des réflexions qui nous permettent de nous détourner du samsara pour nous orienter vers la libération selon la vue du dharma.
Exactement. Et la première de ces pensées est celle que l'on appelle le précieux corps humain.
Dans le texte, ce point est présenté sous le titre « Les instructions sur la difficulté d'obtenir les libertés et les richesses
».
Et comme nous allons le voir, nous ne nous posons généralement pas la question de notre condition humaine. Nous avons un corps humain et cela nous semble tout à fait ordinaire.
Pourtant, selon la perspective du Dharma et les enseignements du Bouddha, obtenir une telle existence est quelque chose de rare et de précieux. En effet, pour disposer de ce que l'on appelle un précieux corps humain, il est nécessaire d'avoir réuni des conditions très particulières.
À savoir, être libre de 8 états défavorables, appelés les 8 libertés, et posséder 10 conditions favorables, appelées les 10 richesses.
Voilà. Ce chapitre consacré au précieux corps humain se divise en plusieurs parties, qui feront l'objet de plusieurs podcasts. Nous prendrons 4 sujets de réflexion tout d'abord.
Les libertés essentielles, puis les richesses particulières liées au dharma, ensuite les images exprimant la difficulté d'obtenir les libertés et les richesses.
Et enfin, des comparaisons numériques permettant d'en mesurer toute la rareté. Dans ce premier podcast, nous commencerons donc par la réflexion sur les libertés essentielles.
C'est ça.
Et d'ailleurs, avant même de lister ces libertés, je crois qu'il faut se poser une question assez frontale. Est-ce qu'on est vraiment libre, là, en ce moment même ?
C'est la grande illusion, ça.
Ben oui, parce qu'on pourrait être simplement prisonnier d'un confort qui nous anesthésie, tu vois, au point d'oublier de donner un sens profond à notre existence.
Ah, mais complètement. Généralement, on définit la liberté d'une façon très sociétale ou politique, ou même par notre capacité à consommer.
Ouais, le pouvoir d'achat, quoi.
Voilà. Mais ici, l'approche est radicalement différente. La liberté, elle est définie par la négative.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est le simple fait de ne pas être piégé dans l'un des 8 états que l'on appelle les sphères sans loisir. Posséder cette liberté, c'est avoir l'espace matériel et mental nécessaire pour pratiquer le dharma, pour vraiment transformer son esprit.
Ce mot « loisir », il est vraiment fondamental ici, parce que c'est pas avoir du temps libre pour aller à la plage le week-end.
Ah non, pas du tout. Le loisir, dans ce contexte précis, c'est vraiment la disponibilité cognitive.
D'accord.
C'est le fait d'avoir un esprit assez clair, dans un environnement assez clément, pour pouvoir s'interroger sur sa propre condition.
Ok, je vois. D'ailleurs, pour bien comprendre, il y a une stance fondamentale qui résume ces 8 prisons. Je vais la citer mot pour mot, parce qu'elle structure vraiment toute notre réflexion.
Je t'écoute.
Alors, les enfers, les prêtas et les animaux, les barbares, les dieux doués de longue vie, les vues fallacieuses, l'absence de Bouddha et l'idiotie, voilà 8 manques de loisirs.
C'est vraiment une cartographie fascinante des impasses de la conscience.
Ouais.
Pour comprendre ce qu'est la vraie liberté, on doit d'abord analyser ce qui nous en prive de la manière la plus absolue. Et c'est le cas des 3 premières sphères qui sont mentionnées.
Donc, les enfers, les prêtas et les animaux.
Exactement. Ce sont des états où l'urgence absolue de la survie écrase littéralement toute autre possibilité.
Si on prend les enfers, par exemple, si on met de côté l'imagerie populaire avec les petits diables, l'essence de cet état, c'est vraiment la douleur physique totale, non ?
C'est ça. Les êtres qui naissent là-bas subissent sans aucun répit des souffrances extrêmes, celles de la chaleur et du froid. Imagine juste que tu viens de poser ta main sur une plaque de cuisson brûlante.
Aïe ouais.
Dans cette fraction de seconde ultra précise, de quoi est-ce que tu es capable de discuter ? Est-ce que tu peux philosopher sur la nature de la réalité ?
Ben, impossible. Le cerveau, il est entièrement consumé par le signal de la douleur.
Voilà. Ta bande passante mentale, elle est saturée à 100% par la souffrance. Et dans ces sphères, cette douleur, elle ne dure pas une fraction de seconde, elle est continue.
D'accord. Donc il n'y a aucun loisir, aucune brèche pour que l'esprit s'élève.
Exactement.
Et si l'enfer, c'est le royaume de la douleur pure, la deuxième sphère, celle des prêtas, qu'on traduit souvent par esprit avide, c'est le royaume du manque.
C'est ça. Leur torture, c'est de souffrir perpétuellement de la faim et de la soif.
La psychologie derrière ça est super intéressante. L'esprit avide, il est souvent représenté avec un ventre gigantesque et une gorge fine comme une aiguille, non ?
Oui, c'est la métaphore parfaite de l'insatisfaction chronique. Tout est filtré par le prisme d'un manque qui les dévore.
Bah, ça me fait penser à des comportements très modernes, finalement.
Ah oui, hein.
Bah oui, ce sentiment de scroller frénétiquement sur un téléphone pendant des heures, d'absorber des milliers d'images pour trouver une satisfaction et de se sentir encore plus vide à la fin.
C'est une excellente analogie.
Sauf que, pour les prêtas, cette sensation de vide, elle est absolue et elle est physique.
Voilà. Quand la conscience est totalement obsédée par la recherche de ce qui lui manque, par une fin inaltérable, bah elle n'a plus l'espace pour cultiver la sagesse ou l'altruisme. Elle est juste esclave de sa soif.
C'est terrible. Et ensuite, il y a la troisième sphère inférieure, les animaux. Et là, c'est encore une autre forme de prison.
Oui. Ils ne sont pas libres parce qu'ils souffrent d'être asservis, de se nuire continuellement les uns aux autres.
C'est la loi du plus fort.
C'est vraiment l'instinct de survie à l'état brut, ouais. L'esprit animal est dominé par une sorte d'opacité mentale et par des réactions très primaires.
Du genre fuir, attaquer, manger.
Se reproduire, se cacher, et voilà. Il y a cette terreur permanente de la prédation, qu'on soit la proie ou même le prédateur d'ailleurs.
Ah oui, c'est vrai.
Et dans un esprit qui est continuellement aux aguets, programmé pour réagir à des menaces immédiates, la réflexion sur la cause de la souffrance est juste inaccessible.
D'accord. Mais attends, il faut vraiment qu'on clarifie une chose cruciale ici.
Vas-y.
Quand on entend tout ça, on a un peu l'impression d'une sorte de tribunal cosmique qui punirait les êtres en les envoyant dans ces enfers ou en les transformant en prétins. Comment on se retrouve concrètement dans ces états ?
C'est une question essentielle. Et la réponse, c'est qu'il n'y a aucun juge extérieur. Ce qui propulse la conscience dans ces états de souffrance pure, c'est le karma.
Notre propre karma, oui.
Oui, plus précisément, le mauvais karma qu'on a accumulé auparavant.
Et comment ça fonctionne, mécaniquement parlant ?
Eh bien, le karma, c'est pas une punition, c'est un mécanisme de cause à effet, une force d'habitude, en fait.
D'accord.
Si un esprit passe une vie entière dominée par une haine violente, par exemple, il s'habitue à cet état de brûlure interne.
Et donc, au moment de la mort ?
Au moment de la mort, cette dynamique se perpétue. Elle cristallise l'expérience des enfers. Et pareil, si l'esprit est structuré par l'avarice et le manque, il va naturellement projeter l'expérience de la sphère des prêtas.
C'est vertigineux. Donc nos actions et nos pensées passées façonnent littéralement notre capacité de perception future. C'est vraiment ce poids karmique qui nous enferme.
Tout à fait.
Donc, si je résume avec une analogie, ces trois royaumes, c'est comme être plongé dans une situation d'urgence absolue. Si tu es en train de geler dans le blizzard, de mourir de soif au milieu du désert ou de fuir un ours.
La croissance spirituelle n'est pas vraiment à l'ordre du jour.
C'est ça. On comprend vraiment pourquoi on appelle ça des manques de loisirs.
Exactement.
Mais ce qui est fascinant dans le texte de Patrul Rinpoché, c'est que ça ne s'arrête pas à ces prisons évidentes de douleur pure.
Non, ça explore ensuite des états beaucoup plus subtils, des situations où l'on a carrément l'illusion d'être libre. C'est là que l'analyse devient vraiment percutante.
On quitte les souffrances physiques extrêmes pour entrer dans des prisons plutôt cognitives et culturelles, c'est ça ?
Voilà. Et le premier exemple de ça, ce sont les barbares.
Alors, le terme peut surprendre aujourd'hui.
C'est vrai. Dans le contexte du texte, ça fait référence aux habitants de 32 contrées périphériques du Tibet, comme le Lokatra, par exemple.
D'accord, donc c'est pas un jugement ethnique.
Ah non, pas du tout. C'est la description d'un conditionnement mental tragique. L'obstacle majeur ici n'est plus la douleur physique continue.
Ils ont une apparence humaine, un corps humain normal.
Oui, mais l'obstacle, c'est leur environnement et leur culture. Ils évoluent dans un contexte où la doctrine du Bouddha, la compréhension fondamentale du bien et du mal, est absente. Et pire encore, les valeurs morales y sont totalement inversées.
C'est un peu comme naître dans une organisation criminelle où la violence est érigée en vertu.
Exactement. On apprend que nuire aux autres est une preuve de force, un acte de bravoure, voire même un acte de foi envers des divinités sanglantes.
Ah ouais, c'est la tragédie de cette condition, quoi.
Prendre la vie est considéré comme bénéfique. Le texte explique que leurs coutumes pernicieuses les poussent à exceller dans l'art de tuer les insectes ou de chasser les bêtes sauvages.
J'ai cru lire que ça allait même plus loin dans l'inversion morale.
Oui, la confusion est telle que certaines traditions les amènent même à prendre leur mère pour épouse. L'esprit est totalement déréglé par rapport à l'éthique qui mène à la libération.
Donc même s'ils marchent, parlent et pensent comme nous, leur esprit n'est pas apte à faire le bien.
C'est ça, et la conséquence, c'est qu'ils s'adonnent continuellement à des actes négatifs en étant persuadés de bien faire.
Et avec la mécanique du karma dont on parlait.
Eh bien, à peine morts, ils choient en très grand nombre dans les renaissances inférieures. Ils tombent directement dans les sphères de douleur intense.
Voilà pourquoi c'est une absence de liberté totale. La porte de la libération leur est invisible. Elle est cachée derrière un énorme mur de fausses certitudes.
Tout à fait.
Et ce mur de certitudes, ça nous amène à la catégorie suivante, ceux qui renaissent chez les Tirtikas.
Oui, ou ceux qui ont des vues fallacieuses. Là, c'est vraiment une prison philosophique.
Pour éclaircir ce point, les Tirtikas, ça désigne quoi exactement dans le bouddhisme classique?
Ce sont les tenants d'écoles philosophiques extérieures, souvent caractérisées par des croyances extrêmes, comme l'éternalisme ou le nihilisme.
Juste pour être sûr qu'on se comprenne bien, l'éternalisme, c'est l'idée qu'il existe une âme solide, immuable, ou un créateur figé pour l'éternité, c'est ça?
Oui. Et le nihilisme, à l'inverse, c'est la croyance que rien n'a de sens, qu'il n'y a pas de karma, pas de causalité, et qu'après la mort, c'est le néant absolu.
Donc nos actions n'ont aucune importance selon eux.
Voilà. Et ces deux extrêmes, ils agissent comme des virus informatiques. Ils contaminent l'esprit.
Bah oui, si tu crois que tout est figé pour l'éternité, pourquoi tu essaierais de changer ?
Exactement. Et si tu crois que rien ne compte et que tout se termine dans le néant, pourquoi faire un effort éthique ? Ces vues fallacieuses bloquent toute aspiration au dharma authentique.
Ça ferme la porte.
D'ailleurs, historiquement, il est dit que Padmasambhava Dodhiana, qui est considéré comme le second Bouddha, a protégé le Tibet en confiant la garde du territoire aux 12 Tenma.
Du protectrice, c'est ça?
Oui, précisément pour empêcher les Tirtikas et leur doctrine de s'y implanter.
Mais l'enseignement va plus loin, je crois. Pas besoin d'avoir l'étiquette officielle de Tirtika ou d'appartenir à une école philosophique antique pour être concerné.
Ah, bien sûr que non.
Toute personne qui, aujourd'hui, entretient des vues fausses à l'égard du chemin spirituel se prive elle-même de liberté.
Tout à fait.
Et pour illustrer ça, il y a une histoire. C'est sans doute l'anecdote la plus frappante et la plus cruelle de toute notre étude. L'histoire du moine Bonne Étoile.
Oh oui. Le cas de Bonne Étoile, c'est le summum du paradoxe spirituel.
C'est fou, raconte-nous.
Imagine un peu, c'est un moine qui a vécu à l'époque du Bouddha lui-même et qui est resté à son service pendant 25 ans.
25 ans ? C'est ahurissant. Il a partagé le quotidien de l'être le plus éveillé de son époque.
Il a entendu chaque enseignement à la source.
Et pourtant ?
Et pourtant, parce qu'il n'avait pas la moindre foi sincère et qu'il entretenait secrètement des vues fausses, son esprit est resté complètement hermétique. Malgré cette proximité incroyable, il a fini par renaître prêta dans un jardin de fleurs.
Prêta dans un jardin de fleurs, l'image est d'une poésie est terrifiante.
C'est ça. Un esprit avide et torturé par la faim, mais placé au milieu de la beauté et de l'abondance.
Cette histoire prouve vraiment que la proximité physique avec la sagesse, bah, ça vaut rien si le logiciel interne est corrompu.
Exactement.
C'est comme se retrouver enfermé dans la plus grande bibliothèque de l'histoire humaine, mais refuser obstinément d'ouvrir le moindre livre sous prétexte qu'on ne croit pas l'existence des mots.
Très belle image.
Ou pour reprendre l'idée de la faim, c'est comme mourir de soif assis juste à côté d'une fontaine d'eau pure, simplement parce qu'on s'est convaincu que l'eau est empoisonnée.
L'obstacle n'est plus à l'extérieur, il est entièrement tissé par l'esprit lui-même. C'est ça, la tragédie des vues fausses.
Et là, après avoir vu ces états de souffrance extrême, puis ces états de corruption mentale, on arrive à un concept qui exige vraiment qu'on s'y arrête.
Ah oui, les dieux.
Oui, parce que ça renverse absolument toutes nos intuitions sur ce qu'est le bonheur. Le texte nous parle d'une impasse cosmique majeure. Les dieux doués de longue vie.
C'est probablement l'un des pièges les plus subtils de tout le samsara.
Mais il faut vraiment m'expliquer ça. Parce que dans la quasi-totalité des traditions humaines, devenir un dieu immortel qui vit dans la paix et l'extase absolue, bah c'est la ligne d'arrivée, c'est le but ultime.
C'est normal de le voir comme ça.
Comment est-ce que ça peut être considéré comme une prison ou un manque de liberté?
Parce que l'on confond complètement l'anesthésie avec la libération. Ces dieux ne sont pas éveillés.
D'accord.
Ce sont ce qu'on appelle des dieux sans perception. Grâce à des pratiques méditatives extrêmement puissantes menées dans des vies passées, mais attention, sans la vue juste de la vacuité, ils ont réussi à éteindre temporairement le fonctionnement de leur esprit ordinaire.
Ils ont fait le vide complet.
Voilà, ils ne perçoivent plus rien, ils ne ressentent plus de douleur, plus d'agitation. C'est un état qui ressemble à un sommeil très profond et sans rêve.
Et l'erreur tragique, c'est que tu s'habitues à cette concentration sans notion de bien ou de mal, sans aucune fluctuation. Et ils se persuadent que cet état d'isolation totale est la délivrance véritable.
C'est ça. Ils naissent chez les dieux sans perception et ils y restent figés pendant de nombreux grands kalpas.
Un grand kalpa, c'est énorme, non?
Pour donner un ordre d'idée, c'est le temps nécessaire pour qu'un univers entier naisse, se développe et se détruise. C'est une durée inconcevable pour notre intellect.
C'est comme si, au milieu d'un film rempli de drames et de tensions, on appuyait sur pause.
Mmh.
On regarde l'image fixe, l'écran ne bouge plus, la tension disparaît. On se dit « Oh, génial, j'ai trouvé la paix éternelle !» Sauf que le film n'est pas fini. Le lecteur tourne toujours derrière.
C'est la métaphore parfaite. Cet état de lieu est conditionné. Il a été créé par l'élan d'un certain karma, comme une flèche qu'on tire vers le ciel.
D'accord.
Pendant des éons, la flèche semble suspendue dans les airs. Mais l'énergie cinétique finit inévitablement par s'épuiser. Et quand ce karma positif s'épuise, la pause se désactive. Il se réveille de cette torpeur divine.
Et que se passe-t-il à ce moment précis?
Eh bien, la chute. Leur vue fausse, cette croyance d'avoir atteint le but ultime, tout ça se brise. L'ignorance fondamentale de leur esprit n'a jamais été traitée, elle était juste endormie.
Ah ouais.
Et sous le choc de la désillusion, ils génèrent des pensées extrêmement négatives et renaissent très souvent directement dans les mondes inférieurs.
C'est tragique. Ils ont perdu un temps cosmique dans une stagnation totale.
C'est pourquoi cet état n'offre aucune liberté de pratiquer le dharma. On ne peut pas transformer un esprit qui est dans le coma.
C'est fascinant comme ça résonne avec certaines tendances modernes. On cherche souvent des retraites spirituelles extrêmes, non pas pour comprendre la nature de notre esprit, mais juste pour fuir les perturbations.
Pour faire le vide.
Oui, pour ne plus rien ressentir. C'est une quête d'insensibilité. Et cette insensibilité nous amène au point suivant, une autre forme d'absence totale qui bloque la libération, l'absence de Bouddha.
Le kalpa obscur.
Qu'est-ce que c'est exactement ?
Un kalpa obscur, c'est une ère cosmique où aucun Bouddha ne prend naissance. L'environnement lui-même est dénué de toute étincelle d'éveil.
Donc celui qui naît dans un tel univers n'entendra jamais ne serait-ce que les mots « triple joyau ».
C'est-à-dire le Bouddha, le Dharma et la Sangha, la communauté des pratiquants, non jamais. Il y a une obscurité spirituelle complète.
Sans l'apparition de la doctrine, il est structurellement impossible de distinguer le bien du mal du point de vue de l'éveil ultime. C'est ça, Sam ?
Exactement. On peut être quelqu'un de très bien, mener une vie paisible, mais l'outil même qui permet de se libérer du cycle des existences n'a pas été inventé dans cette réalité-là.
C'est comme vouloir construire un microprocesseur à l'âge de pierre. Le langage conceptuel n'existe même pas.
Voilà. On ne dispose d'aucun loisir pour pratiquer un chemin qui n'est pas connu.
C'est une entrave environnementale inonfranchissable. Ce qui nous laisse avec la toute dernière prison mentionnée par le texte. Et celle-ci, elle est purement individuelle et intérieure.
L'idiotie.
Et attention, il s'agit d'un terme technique qu'il faut définir précisément ici. C'est pas du tout une insulte. Cela désigne un état où la conscience est défectueuse.
C'est exact. L'esprit ne fonctionne pas avec l'acuité requise. La conséquence technique est très claire et nette. La personne n'est incapable d'écouter les enseignements, de les exposer, de les analyser intellectuellement et de les mettre en pratique.
Les mécanismes de base nécessaires à la transformation spirituelle sont grippés.
Et le texte sépare cette entrave en deux catégories. Il y a d'abord l'aspect physique.
On qualifie ça d'idiotie physique parce qu'il s'agit de personnes qui ne peuvent pas parler, c'est ça ?
Oui, le langage articulé, qui est fondamental pour la communication humaine complexe, fait défaut. Et sans ce canal, l'accès à la subtilité de la transmission orale est bloqué. C'est une perte d'opportunité colossale.
D'accord. Et la deuxième catégorie ?
C'est l'aspect purement cognitif, l'idiotie mentale. Il s'agit d'une grande stupidité qui empêche de saisir le sens profond du dharma.
Donc, même s'ils entendent les mots parfaitement, le discernement n'est pas là.
C'est ça. Quand on parle de concepts aussi vertigineux que la vacuité, la nature interdépendante des phénomènes ou l'esprit d'éveil, ben, il faut une vivacité intellectuelle minimale.
Sinon, la conscience glisse sur ces concepts sans pouvoir s'en saisir.
Absolument. Ils ne sont donc pas libres d'évoluer. Leur propre intellect agit comme un plafond de verre.
Si l'on prend un peu de recul sur cette incroyable traversée, c'est saisissant. Des tortures de feu et de glace des enfers, à l'appétit insatiable des prêtas, en passant par les instincts animaux.
Des barbares à la morale inversée.
Aux croyances fausses qui ferment la porte de la bibliothèque. Oui, jusqu'à cette paix illusoire et glaciale des dieux à longue vie, au vide environnemental des kalpas obscurs, et enfin à la conscience défectueuse de l'idiotie. Tout cela forme vraiment un miroir fascinant.
Un miroir qui nous force à regarder notre propre situation avec une lucidité nouvelle.
Exactement. Et ça ramène à la question vertigineuse du tout début.
Laquelle ?
Eh bien, nous cherchons constamment à bâtir une vie sans aucun problème, sans aucun inconfort, où l'on peut assouvir nos désirs sur commande. On cherche presque à recréer la sphère des dieux à longue vie sur Terre, à s'anesthésier avec du confort.
C'est tellement vrai.
Mais si l'on écoute cette sagesse millénaire, ce confort absolu, cette absence de friction, c'est peut-être la forme de prison la plus subtile. Une existence est-elle réellement libre si elle nous maintient dans un état de douce léthargie, mais ne nous offre pas la clarté, l'urgence saine et l'opportunité active de transformer notre esprit pour de bon? C'est une réflexion fondamentale qu'il faut garder en tête.
Dans ce podcast, nous avons exploré les réflexions sur les 8 libertés essentielles, c'est-à-dire les conditions dont nous sommes libres et qui rendent possible une existence humaine favorable à la pratique du dharma. Ces réflexions nous invitent à prendre conscience de la valeur et de la rareté de votre situation actuelle que nous avons souvent tendance à considérer comme ordinaire. Dans le prochain podcast, nous poursuivrons cette réflexion en abordant le second aspect du précieux corps humain, les richesses particulières liées au dharma, c'est-à-dire les 10 conditions favorables qui permettent de donner tout son sens à cette existence humaine.